Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Solène Robin.
Bonjour, merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de cet éclairage consacré au sommeil. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Jouvet. Je rappelle que ce neurobiologiste est le pionnier incontesté de l'hypno-onirologie, c'est-à-dire la science du sommeil et des rêves. Nous l'avons abordé dans le premier volet de cette émission, c'est Michel Jouvet qui a découvert l'existence du sommeil paradoxal, c'est même lui qui lui a donné ce nom. Vous pouvez retrouver la première partie de cette émission en libre téléchargement sur le site de Canal Académie. Nous l'avons évoqué, la thématique du sommeil est complexe, elle préoccupe beaucoup. Nous dormons trop, pas assez, mal, trop tard, trop tôt. Michel Jouvet évoque donc avec nous l'historique de la recherche relative au sommeil. Il a, je le rappelle, réalisé un parcours exceptionnel dans ce domaine. Il est membre de l'Académie des sciences depuis 1977, de l'Académie royale de médecine de Belgique, mais également de l'American Physiological Society. Sa carrière a également été couronnée de prix très prestigieux. Il est médaillé d'or du CNRS en 89. Il a reçu le prix de la Fondation pour la recherche médicale en 83, le Distinguished Scientist Award of the Sleep Research Society en 89, ainsi que le prix Simone Cino del Duca en 91. Tant d'autres évidemment, mais on ne peut pas tous les citer aujourd'hui. Alors dans la première partie de notre émission, nous avons abordé la question de l'horloge interne et nous avons également délimité la notion de sommeil paradoxal. En effet, pendant des années, on pensait qu'il y avait le sommeil et l'éveil avec une alternance activité-récupération. Les chercheurs pensaient que le rêve correspondait tout simplement à un état de sommeil léger. En fait, il n'en est rien, il existe un troisième état du cerveau, le sommeil paradoxal. Alors pourquoi on l'a appelé paradoxal? C'est très simple, parce que le cerveau est dans un état similaire à l'éveil, l'activité cérébrale reste forte, les ondes sont rapides, mais l'homme est bel et bien endormi et on observe une suppression totale de l'activité musculaire. Nous évoquions le chat qui a permis de découvrir ce sommeil paradoxal. Alors, que se passe-t-il chez le chat lorsque, pendant son sommeil paradoxal, on crée une lésion pour que ses membres ne soient plus paralysés? Alors Michel Jouvet, expliquez-nous tout ça.
C'est ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu placé, qu'on savait que dans le pont, c'est-à-dire cet endroit qui est au-dessus du bulbe, venaient tous les signes du sommeil paradoxal, c'est-à-dire un système qui venait activer le cortex, comme pendant l'éveil, d'accord, mais par des mécanismes différents de l'éveil. Enfin, ça, on n'a pas le temps d'entrer là-dessus. On s'est dit, il doit y avoir un système qui bloque l'activité des muscles. Puisqu'on
bien
voyait
sûr
arriver ça, qui était évident,
oui,
même chez des animaux qui étaient rendus très hypertoniques par d'autres lésions, brusquement, tout d'un coup, ils devenaient mous. On s'est dit, il faut trouver cet endroit. Et par essai et erreur, puis là aussi, ça a pris du temps. C'est-à-dire que c'est dans les années 60...
Donc on est parvenu à 60, trouver...
70, on a eu d'abord une géographie infiniment plus fine du cerveau par de nouvelles méthodes, parce qu'en 1950, on n'avait pas beaucoup de systèmes pour reconnaître les différentes régions de ces choses-là. Et on est arrivé à localiser, bien sûr, par des petites lésions bilatérales et symétriques, dans un endroit qu'un beau nom qui s'appelle locus ceruleus, qui veut dire l'endroit bleu, parce que les vieux anatomistes, quand ils coupaient le cerveau, ils voyaient que c'était bleu. Et on s'est aperçu qu'une petite lésion à cet endroit-là ne supprimait pas, que tout était normal quand l'animal était éveillé, quand il dormait, mais qu'au moment où il aurait dû laisser tomber la tête et où l'activité musculaire aurait dû être nulle, c'était l'inverse. Il relevait la tête, ça commence toujours de la même façon, il levait la tête... Il tourne la tête vers la droite, les yeux vers la gauche. Il tourne la tête vers la gauche, les yeux vers la droite. Il regarde en haut, les yeux vers le bas, comme si il s'orientait dans l'espace. Et à ce moment-là, eh bien, de façon au hasard, qu'on n'a jamais pu déterminer, soit il va avoir une activité de chasse, mais absolument. Alors,
c'est-à-dire, vous voulez dire, une fois qu'on a créé cette lésion,
oui,
c'est-à-dire
c'est
ce qui permet que l'activité musculaire s'arrête,
exactement.
On crée une lésion.
C'est à partir de là qu'on a décrit ce qu'on appelait le comportement onirique, puisque ça correspond
d'accord.
au rêve.
Donc le chat vit son rêve.
Exactement, il vit son rêve.
Alors, il fait quoi?
Eh bien, il y a trois grands types de comportements. La chasse, avec ces fameux gestes, vous savez, que les chats font pour ramasser des choses.
Il chasse des proies qui n'existent pas, puisqu'ils
rêvent. Ah, non seulement il chasse des proies qui n'existent pas, mais si vous mettez ces chats à jeun depuis 2 ou 3 jours et que vous mettez à ce moment-là dans leur cage un morceau de viande,
ils n'y touchent absolument pas, ils ne le voient pas. Ils sont aveugles, ils sont dans une espèce de vie intérieure.
Littéralement pris par la machinerie onirique, comme nous également à ce moment-là. Et alors, ils vont chasser après une souris imaginaire, puis, quelquefois, surtout chez les mâles qu'on a enregistrés, il y a une activité soit de peur, alors que c'est très facile à voir, avec les poils qui se hérissent, la queue qui commence à se hérisser, et après les oreilles qui se mettent en arrière, c'est l'attaque. C'est extraordinaire, mais ça, on voit bien tous ces stades-là. Ça dure à peu près 3-4 minutes, parce que très souvent, comme ils sont dans des cages d'enregistrement, quand ils attaquent, ça les réveille, parce qu'ils rentrent sur les parois de la cage. On a vu beaucoup aussi de comportements de lapping.
Oui, donc ils vivent réellement leur rêve.
On n'a jamais vu, chez des chats, parce que chez le mâle, c'est plus difficile, ce comportement sexuel. Les chattes qui sont en chaleur se mettent à plat avec la queue de côté.
Ouais. Hein,
Et ça, on ne l'a pas vu, c'est pour ça qu'on s'est dit que Freud, il se moquait du monde parce qu'il y avait plein de choses sexuelles à ce moment-là. Mais lorsqu'on a eu découvert l'érection, qui s'est arrivé beaucoup plus tard, chez l'homme et chez les chats, et puis maintenant je crois que chez le rat aussi et tout, il y a certainement quelque chose de sexuel dans le rêve. Donc, on appelle ça comportement onirique. Alors vous allez dire, est-ce qu'on a vu ça chez l'homme?
J'imagine que si ça s'applique au chat, ça doit pouvoir s'appliquer à l'homme.
Bien sûr, ça s'applique à l'homme.
Ça veut dire que si on crée une lésion
C'est pas du tout... La lésion, elle se crée en buvant trop de bière. C'est pas du tout le somnambulisme, c'est autre chose.
Justement, j'aimerais bien qu'on fasse un petit aparté par rapport
au... On en parlera tout à l'heure.
Très bien.
Donc, le comportement onirique, ce que les Américains, qui sont toujours matter of fact, appellent comportement spécial during... Ils appellent le sommeil paroxystal le REM sleep, rapid eye movement sleep, ce qui est une stupidité parce que il y a des animaux qui ont du sommeil paroxystal et qui ne bougent pas les yeux. La chouette, elle bouge jamais, les chouettes bougent les yeux. Alors, mais ils l'ont fait pour une question de...
Oui, mais c'est un schéma qui, le fait qu'il y ait des mouvements oculaires pendant les rêves, c'est quand même le schéma le plus fréquent.
Oui, bien sûr, mais on ne peut pas dire que la chouette qui présente du sommeil paroxystal a du REM sleep.
Non, mais je suppose qu'on s'intéresse plus, de manière générale, à l'homme qu'à la chouette.
Oui, mais il y a des gens qui ont des maladies où ils ne peuvent pas bouger les yeux, mais ils ont du sommeil paroxystal. Paradoxal veut dire que c'est quelque chose qui est un peu holistique, c'est-à-dire se prendre juste un des signes. On pourrait dire aussi sommeil avec érection. Mais bon,
si vous voulez.
Tant qu'on n'a pas regardé tous les animaux et tout.
Cela dit, ça permettrait d'expliquer aussi, puisqu'on parle du sommeil paradoxal qui devient de plus en plus long au fur et à mesure que la nuit avance. Non, je crois que juste avant le réveil du matin, on est en phase de sommeil paradoxal, ce qui pourrait expliquer aussi les érections matinales.
Vous avez observé ça.
C'est purement scientifique.
On a appelé ça comportement onirique. Est-ce que ça existe chez l'homme? Eh bien, ça a été vu plus ou moins bien par 2 ou 3 fois, on avait vu des malades parkinsoniens qui devaient un bras et tout, mais ça a été l'école de Minneapolis qui a eu la chance de voir beaucoup de ces cas-là. Et c'est toujours la même chose, vous faites le diagnostic quand les gens viennent à la consultation de sommeil, parce que ça ne se voit surtout chez des personnes de plus de 50 ans. Et vous faites le diagnostic parce que l'homme vient avec, en général, une fracture du poignet. Il est accompagné de sa femme qui a un énorme coquard sur l'œil. Alors, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la dame dit, écoutez, je ne sais pas ce qu'il a, mon mari, mais depuis quelque temps, au milieu de la nuit, il se jette sur moi. Il tape très fort, il s'est même cassé le poignet en tapant sur les bords du lit, mais regardez ce qu'il m'a fait. Bon, alors on reprend tout ça, on fait rentrer les gens à l'hôpital, on fait rentrer le monsieur, parce que c'est maintenant 80% chez l'homme. Et des grands buveurs de bière à Minneapolis, c'est l'endroit où il y a des tas de Polonais qui ont immigré. Et donc, buvant de la bière, ils font des petites lésions dans la région, justement, du locus coeruleus.
En fait, la lésion se crée par l'absorption d'une quantité trop importante d'alcool.
D'alcool, c'est ça. D'ailleurs, c'est bien ce qui m'ennuie, parce que depuis quelques temps, je présente ce type de comportement aussi. C'est pour ça que... C'est, non, mais ça peut se faire avec du vin, mais il n'y a pas de vin.
Bien sûr, et puis il y a des pathologies, j'imagine,
oui,
autres
oui,
que...
Oui, bien sûr. Et alors, on prend ces gens, on les met tout seuls dans leur lit, on met des électrodes, et à un moment donné, brusquement, s'assied sur son lit, se jette sur son oreiller, le prend, le tape et tout. À ce moment-là, on enregistre, bon, ça ressemble, c'est activé, il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup d'artefacts. On réveille le monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais je me battais... Avec un ours, mais
ah,
si.
Ah oui, il rêvait, il se battait avec un ours.
Très curieusement, très curieusement.
Donc cette... on est dans un comportement onirique comme celui du chat qu'on a évoqué tout à l'heure.
Et alors, bon, ça se passe. Maintenant, il y a certaines drogues qui arrêtent ça très bien, il y a certaines benzodiazépines qui arrêtent, mais il semble que chez tout de même, le quart de ces personnes, au bout de 5 ou 6 ans, on les voit évoluer vers un peu la maladie de Parkinson. Ça atteint des systèmes... aminergie, ah,
très intéressant. Alors j'insiste, je veux revenir sur cette question des somnambulismes très, très brièvement, parce que justement, on a tendance, les communes renommées, à se dire les gens qui sont somnambules,
et
c'est parce qu'ils rêvent.
Et bien sûr. Et alors justement, ça a été l'idée dès le départ. D'abord, ça a été très difficile, les expériences ne sont pas faciles à faire. Ça a été fait au départ par le groupe de Los Angeles, parce que quand vous prenez quelqu'un qui a des crises de somnambulisme, en général, c'est un adolescent. Mais il suffit qu'on le change d'endroit pour qu'il n'en fasse plus. Donc, il a fait chez eux. Donc, il a fallu se mettre dans la tête qu'il fallait aller enregistrer les gens chez eux. Donc, ça suppose qu'il y ait des systèmes de télémétrie, mettre au point la télémétrie et tout. Parce que vous ne pouvez pas mettre des fils à quelqu'un. Mais enfin, finalement, on est arrivé à enregistrer. Et très curieusement...
Excusez-moi, vous pouvez... préciser le terme de télémétrie.
Ah, télémétrie. C'est-à-dire que, normalement, vous avez vu quelqu'un qu'on enregistre dans un laboratoire d'électroencéphalographie, il a des fils qui partent des électrodes et qui vont se mettre dans l'entrée des amplificateurs. Donc, on les enregistre. L'entrée dans le sommeil est normale. Et très souvent, c'est au moment où ils auraient dû faire, donc une heure et demie après l'endormissement... Vers
11h30. Alors, 1h30, ça correspond à la fin du cycle de sommeil profond.
Où on aurait dû avoir une activité rapide du rêve.
Donc,
on n'a pas du tout ça.
Sommeil paradoxal.
Non, non. On continue à avoir des ondes lentes. Et on voit le sujet qui va se lever. Et il y en a même un qui a été enregistré jusqu'à... Il avait un réfrigérateur à côté. Il est allé, il s'est servi de lait. Il l'a bu. Il est ressorti, toujours avec ses ondes lentes. À ce moment-là, on lui a dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» Il ne savait pas, pas de souvenir du tout. Donc, le somnambulisme, qu'on présente, se balader sur les toits comme
oui,
ça,
oui.
Il peut avoir une activité extraordinairement, une espèce de conscience extraordinairement fine. Mais, étant donné qu'il a les ondes lentes, il semble que, le système qui enregistre la mémoire. Quand vous faites quelque chose, il y a un autre système qui tape sur un autre système qu'on appelle le système à mémoire, l'hippocampe, qui enregistre chaque chose que l'on fait. Et bien, il semble que ce système-là ne marcherait pas, ce qui explique que le somnambulique perd totalement le souvenir de ce qu'il fait.
Donc le somnambulisme intervient dans des moments de sommeil lent.
Exactement, le moment de sommeil lent, ce qui explique qu'il peut avoir toujours du tonus.
Donc, un somnambule n'est pas en sommeil paradoxal.
Non.
Et
non.
De la même manière, quelqu'un qui bouge beaucoup pendant son sommeil,
voilà,
il est en sommeil lent.
Exactement, parce que vous ne pouvez pas bouger, par définition, pendant le sommeil paradoxal. Alors, le somnambulisme, maintenant, on ne sait pas bien comment ça se passe, parce qu'on n'a jamais vu un chat somnambulique. Donc, le grand problème, là aussi, c'est pas très grave, parce qu'on sait bien, ça se guérit très bien. Le seul problème, c'est que ça devrait, quand ça arrive chez les enfants, ça devrait disparaître vers 15-16 ans. Si ça continue, il faut mieux aller voir un hypnologue, parce que si vous habitez au 15e étage, que vous ouvrez...
Ah oui, une fenêtre, ça peut être dangereux, effectivement.
C'est ce qu'on appelle le syndrome de... C'est un syndrome particulier, les gens qui se précipitent dans le vide au cours du sommeil.
C'est un peu dangereux. On va marquer à nouveau une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Nous retrouvons le professeur Michel Jouvet qui vient aujourd'hui nous parler du sommeil. Nous avons évoqué le sommeil paradoxal qui survient pendant les rêves, mais est-ce que sommeil paradoxal et rêve, c'est la même chose? Finalement, est-ce qu'on peut rêver pendant du sommeil lent, monsieur Jouvet?
Alors c'est devenu un problème où il y a deux écoles. Moi, je suis...
Votre école.
Un peu de l'école de... Le problème du rêve, activité onirique. Moi, j'ai surtout étudié le comment des choses. J'ai eu un service d'exploration fonctionnelle à l'hôpital neurologique de Lyon, mais je me suis surtout intéressé à une maladie qui est en rapport avec le sommeil paradoxal. C'est le sommeil paradoxal qui apparaît au cours de l'éveil, brusquement.
La narcolepsie, c'est ça?
À la suite d'une émotion. C'est le sujet qui, soit... à une petite inhibition des muscles de la face, à bredouiller, vraiment. Soit il va s'écrouler. Et donc, en plus, c'est des gens qui dorment beaucoup. C'est comme ça que, avec un laboratoire qui est français, le laboratoire Lafont, on a mis au point une molécule qui est le modafinil, qui a permis de guérir la part de ces malades.
Mais donc, ce qui veut dire qu'un narcoleptique, il va rêver en dehors du sommeil paradoxal?
Si, au moment où il s'écroule, c'est du sommeil paradoxal, et quand ça dure deux minutes, et il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. J'avais un malade qui avait, je ne sais pas combien, d'épisodes, une centaine par jour. Il avait des épisodes, c'était très difficile pour lui d'être au lycée, parce qu'il n'entendait rien. On l'a amélioré, mais lui... Il faisait beaucoup d'épisodes après le repas, pendant la sieste, et on voyait très bien, mais brusquement ça s'arrêtait. Ça durait 3 minutes, 4 minutes, on lui disait qu'est-ce qui était arrivé. À ce moment-là, lui, il était très particulier. Il sortait de son corps qu'il voyait étalé toujours sur le lit à plat ventre, et il allait voler et rentrer par les fenêtres pour aller voir ses petites amies. Et en 4 ou 5 minutes, il arrivait, parce que le temps était très différent, il arrivait à en voir 3 ou 4 comme ça.
D'accord.
C'est bien un rêve. Donc on revient maintenant à votre question qui était...
Ma question, c'était est-ce qu'on peut avoir des rêves en dehors du sommeil paradoxal?
Au début, avec Bill Dement et la plupart des gens, donc au début c'est 1960-70, il n'y a pas eu de problème. Tout le monde disait 80%. De souvenirs de rêve pendant le sommeil paradoxal, moins de 20% pendant le sommeil. Et puis on a vu arriver, du fait du freudisme et des psychanalystes, pour eux, c'est tout le temps. On rêve tout le temps pendant le sommeil, ils n'ont jamais vu cette périodicité et tout. On a vu de plus en plus des articles venant des écoles de psychologie analytique, disant que mais non, tout ça c'est de la rigolade. Quand on réveille des gens, ils se souviennent de leurs rêves très bien, même pendant le sommeil. Alors on a dit, bon, ça c'est très bien, mais pourquoi pas dans le fond, puisque si vous rêvez, vous couchez à 10 heures, vous rêvez entre 11h30 et minuit, grosso modo. Si on vous réveille à 1 heure, pendant du sommeil à onde lente, vous pouvez très bien vous souvenir du rêve que vous avez eu avant. Ah, ils ont dit, d'accord, on va faire de nouvelles expériences. Donc, ils ont fait des expériences avant le premier rêve. Et là, ils ont dit, on a des sujets, quand on les réveille, ils rêvent. Alors, on a dit, ben, montrez-nous le protocole. À quoi ils rêvent? Alors, bien sûr que, quand vous réveillez certains sujets au début de la nuit, après la phase d'endormissement, avec activité rapide, il y a toujours des petites hallucinations hypnagogiques, pendant ce moment, il y a des sujets qui vont vous dire, tout dépend ce que vous appellerez, oui, ah ben oui, je crois bien que je rêvais que j'étais dans un laboratoire où on étudiait mon sommeil. Bon, est-ce que c'est un rêve? Alors que celui que vous mettez pendant le sommeil paradoxal, il va vous raconter, bon, on est deux ou trois magnifiques, où un type qui regarde un jeu de tennis, où les mouvements de ses yeux allaient avec la balle, ou un autre qui suivait une magnifique hôtesse de l'air qui montait les escaliers devant lui, et il regardait les fesses de l'hôtesse de l'air, tout cela en couleur et tout. Donc ça, les souvenirs de rêve obtenus pendant ce même paxal sont
beaucoup
quasiment toujours en couleur, et alors que dans l'autre cas, non.
Donc, c'est-à-dire que des rêves pendant le sommeil lent sont beaucoup plus abstraits.
Ouais, c'est ça. Ils sont beaucoup plus abstraits, beaucoup plus en rapport avec la situation. Ou bien, tu vas vous dire, mais je me suis peut-être trompé d'autobus pour venir au laboratoire du sommeil, mais c'est en rapport avec la situation. Alors qu'un rêve, moi, je n'ai pas vu des rêves l'autre jour. C'était en rapport avec la Lune, j'étais sur la Lune. Je pense que, comme toute chose où vous faites passer de l'objectif au subjectif, il y a des problèmes qui font que selon les écoles, parce que quand on voit l'augmentation maintenant, le sommeil est étudié essentiellement en Amérique, soit au point de vue physiologique chez des mouches, avec la biologie moléculaire, soit au niveau médical, par les gens de la respiration à cause des pauses respiratoires au cours
du sommeil. Oui, de l'apnée
du sommeil. Et les autres qui s'en occupent, c'est essentiellement des psychologues, et la plupart sont d'origine psychanalytique.
Donc, et juste, je voudrais aborder, pendant que vous parlez de ça, un autre problème. Vous avez également, vous, parmi vos études, beaucoup étudié l'aspect énergétique du sommeil. Rêver semble dépenser beaucoup d'énergie, de glycogène, c'est-à-dire de sucre. Mais alors, si on alterne les moments où on dort d'un sommeil profond et qu'on récupère de l'énergie, pourquoi diable aller le consommer dans l'instant d'après en rêvant? À quoi ça sert, si on peut l'expliquer succinctement?
Alors voilà, là aussi, il y a deux écoles.
Beaucoup d'écoles.
Il y a les anglo-saxons qui ne posent jamais la question du pourquoi, en disant les choses sont pas faites pour un but précis, c'est téléologique. Plus personne se pose le problème de savoir à quoi sert le rêve là-bas. Mais les Européens se disent, bon, sans quelque chose qui a été conservé dans l'évolution depuis les mammifères, depuis les homéothermes, qui est très dangereux pour la plupart des animaux, puisque c'est une période
de... Oui, on ne peut pas se défendre, puisqu'on est dans une...
Ça doit bien avoir un certain type de fonction. Parce que maintenant, il est considéré comme totalement idiot en se disant, la plupart des gens modernes, enfin d'une certaine philosophie très particulière, c'est dire qu'il y a une fonction à quelque chose, c'est un peu comme celui qui dirait l'Arc de Triomphe, c'est pour faire passer les troupes de Napoléon. Moi, je pense que dans l'évolution, si le sommeil paradoxal est arrivé, qu'il avait une fonction à faire. Alors quand on voit, je vous rappelle, c'est rapide, ma théorie, c'est une théorie, on ne peut pas prouver qu'elle est vraie, je ne crois pas qu'on puisse prouver qu'elle est fausse, donc elle reste des choses non, c'est non falsifiable, non vérifiable.
Bon,
elle est la suivante. Les animaux qui ne rêvent pas, les poissons, les amphibiens, les reptiles, sont également différents.
Ceux qui sont à sang-froid, donc.
À sang-froid, ont également une chance par rapport à nous, c'est que leur cerveau, il repousse. Si vous enlevez la moitié d'un cerveau à une grenouille, elle va repousser.
Oui, alors que nous, passer le troisième mois chez l'homme, les cellules ne se divisent plus.
Donc, à partir des homéothermes, les cellules ne se divisent plus, sauf celles du bulbe olfactif.
Hein,
on a trouvé quelques endroits, mais ce n'est pas comme les autres ou partout. Et alors, on peut se demander si, étant donné que le cerveau est un système extrêmement plastique, étant donné des travaux remarquables de psychologues qui ont étudié des vrais jumeaux, quelqu'un a eu le courage pendant 20 ans d'étudier 50 couples de vrais jumeaux séparés dès la naissance.
D'accord.
50 couples de faux jumeaux séparés dès la naissance, hein, et donc les vrais et les faux jumeaux servant de contrôle. Il les a, c'était ouais, du travail que ça représente. C'est plus facile de les trouver, d'ailleurs, dans ces jumeaux, dans les pays scandinaves, parce qu'il y a des registres spéciaux sur les jumeaux.
D'accord.
Enfin, quoi qu'il en soit, je vais vous raconter un des cas qui a été vu par ce grand psychologue.
Oui, parce que là, je me demande où vous allez nous amener avec le rêve.
Eh ben, vous allez voir. Il a étudié deux jumeaux. Je vais vous parler de deux catégories de jumeaux, de vrais jumeaux. Il a suivi ces gens, il a retrouvé leur nom, il leur a payé un billet d'avion pour qu'ils reviennent, il était à Minneapolis, pour qu'ils viennent à Minneapolis. La plupart avaient 40-50 ans, donc il a eu toute une vie devant lui pour voir ce qu'étaient devenus ces gens. Ils avaient été élevés par leur grand-mère paternelle ou maternelle, parce qu'il y a 40-50 ans, les grossesses gemellaires avec jumeaux, ça avait plus de cas que maintenant. La mère mourait. Donc les petits étaient pris dès la naissance et élevés. Alors je vais vous parler de deux cas. Il y en a un qui était des jumeaux qui sont nés, Jules et Jim, qui sont nés à la Barbade.
Comme le roman.
Exactement. La grand-mère paternelle en a pris un, Jules, qu'elle a élevé dans l'Allemagne nazie, chez les Hitlerjugend. L'autre a été élevé par sa grand-mère maternelle en Palestine, à cette époque c'était pas encore Israël, dans un kibbutz. Ces types se connaissaient pas. Du tout, du tout, du tout. Ils sont venus. On les a pris en photo. Bien sûr, ils se ressemblaient. Ils avaient tous les deux la même façon de se tailler les moustaches. Alors, moustache, c'est quelque chose qui dépend de votre volonté. Ils avaient tous les deux des moustaches de Gaulois. Des pattes, là. Ils étaient tous les deux un peu calvitie. Ça, c'est le génome. C'est pas difficile, mais tout de même la moustache.
Et leur rêve, alors?
Je vous en parlerai après. Le problème, donc, quand on voit après la vie qu'ils ont eue, ils ont été élevés dans des milieux totalement différents. Tous les deux, à 18 ans, se sont mariés avec des blondes. Ils ont divorcé tous les deux de ces blondes, 4 ans après, pour se remarier...
Avec des brunes.
Non, avec d'autres blondes qui avaient le même nom, le même prénom. Tous les deux avaient des chiens-loups, ils avaient donné le même nom. Enfin, c'est extraordinaire de voir tous les ressemblances, comme s'ils avaient été sur les mêmes rails. Bon, étant donné que le cerveau est le système le plus plastique qui soit, et qui est entièrement commandé par le milieu extérieur, comment se fait-il qu'ayant été, depuis la naissance, dans des milieux totalement différents, ils aient eu la même vie? Même ils avaient tout, ils fumaient pas, ils commençaient à lire le journal de... tous les deux de la même façon, par la dernière page, enfin c'était...
Je sens que vous allez revenir au sommeil.
Non,
non pas même pas.
Non, je vous pose le problème, c'est un problème purement de bon sens. Comment admettre, étant donné que le cerveau pendant la journée est changé par le milieu, comment se fait-il qu'ils restaient ensemble? D'accord. Sinon, qu'il y ait un système de reprogrammation qui marche au moment... où c'est le plus facile qu'à faire, c'est-à-dire au cours du sommeil.
Nous y arrivons.
L'hypothèse possible, ce serait que le rêve servirait, même si on est loin d'en avoir la preuve, le rêve servirait à notre individuation.
C'est-à-dire qu'on a...
C'est-à-dire un individu, deux jumeaux monozygotes sont le même individu.
Des vrais jumeaux, donc.
Non. Normalement, dans des milieux différents, ils devraient très rapidement diverger, pas être semblables. Or, ils sont identiques. Donc il faut admettre que pendant la journée, tout ce qui a été changé par l'environnement est repris à la nuit pour remettre les gens dans leur individualité.
C'est ce que vous avez appelé l'hérédité psychologique.
Voilà, l'hérédité psychologique est d'ailleurs un cas de... qui a été vu par Ribot. Il y a eu des gens autrefois qui l'ont fait. Alors maintenant, c'est très mal vu de parler de ces choses-là.
Oui, alors ce que j'allais vous dire, c'est vous avez dû créer une certaine polémique avec
Parce que dire que finalement, les jeux sont faits dès la naissance parce que vous allez être programmé pour être ce que vous êtes et qu'on ne pourra pas trop vous changer, c'est évidemment contre la théorie qui veut que le milieu fabrique l'inné l'acquis rentre là-dedans. Bien entendu, il faut voir les choses avec... Tout n'est sans doute pas changé, mais l'expérience que j'ai dans ma famille, mes enfants, fait qu'il y a énormément de types de comportements, marcher pieds nus, dans le jardin, ne pas fermer les yeux, que même avec une fantastique façon de les battre, même s'ils ne faisaient pas ça, fait qu'ils n'ont jamais réussi à faire obéir ça. Il y a des types de comportements qui restent malgré la changement des choses. Un autre cas, puis après je passerai au souvenir de rêve. Deux jumelles, une anglaise, une qui était Scotland en Écosse, l'autre qui était au Pays de Galles, 30 ans. Elles viennent, billet d'avion, elles viennent voir ce chercheur. Je crois que le nom va arriver, je sens qu'il y a le nom qui va arriver. Elles arrivent toutes les deux, même robe rouge, même haut talon, même bague. Vous savez, des bagues seven, des bagues avec sept ronds qui étaient à la mode il y a... Vous n'étiez pas né à cette époque.
Peut-être, je ne sais pas.
Et tout était en elles. Donc elles ont acheté. Elles ne se connaissaient pas. Elles se sont trouvées, ah tiens, maman, etc. Et elles ne s'étaient jamais vues. Elles avaient acheté chacune... Quand vous achetez quelque chose, vous pensez que vous êtes libre d'acheter quelque chose. Hein? Mais si vous aviez une jumelle dans un autre pays, elle achèterait la même robe que vous. Mm-hmm. Alors, est-ce que c'est ça? La liberté, où est-elle?
Hein? Alors, pour vous, cette espèce de serait une espèce de reprogrammation qui se produirait au moment des rêves.
Exactement. Alors, vous allez me dire, et les rêves? Ben, il y a très peu de gens qui ont étudié les rêves des jumeaux. Mais cela m'est arrivé une fois. À l'académie, ici, sans dire son nom, j'ai un collègue, un charmant collègue, qui a un frère jumeau, tellement jumeau, lui, il n'est pas à l'institut, mais il est également un grand professeur, que je me trompe toujours quand je le regarde, je dis bonjour Alain, et maintenant on dit ça c'est mon frère, etc. Et donc, un jour, j'étais avec eux, et il y en a un qui a commencé à raconter un rêve qu'il faisait. Dans une rue, c'est de ce que je parle d'ailleurs dans mon roman, là, sur le château des Songes. Il dit, oui, quand on passait devant cette maison, je faisais le rêve que quand on passait dans cette maison, il y avait une dame qui était assez affreuse, qui nous ouvrait la porte, et l'autre, à ce moment-là, lui dit... Oui, elle nous ouvrait la porte et il y avait des tas de chats qui se précipitaient sur nous. Donc il a terminé le rêve. Et alors l'autre lui dit, comment ça se fait que tu saches ça? On n'en a jamais parlé. Non. Donc
Dans le cas
particulier, ils avaient fait le même rêve. Comment relier le problème du rêve, du contenu du rêve, avec cette théorie? Il y a quelqu'un qui avait un peu pensé à ça. Je ne crois pas que c'était un élève de Freud, c'est... le test de ce qu'on dit. Et lui, il avait l'idée que la personnalité, le rêve, c'était la génétique de l'inconscient. Hein, on dit que c'était un Hongrois qui a fait ces tests justement pour repérer les tests de personnalité qui a mis ça au point. Donc, si vous voulez, il y a déjà des gens qui ont eu cette idée. Mais comment la prouver?
Oui, alors effectivement, cette théorie... elle doit créer de la polémique et ouvrir encore à nouveau le sujet du rêve du sommeil paradoxal.
Bien sûr,
et justement, voilà, ce sujet, il mériterait des développements à l'infini. Malheureusement, notre émission va toucher à sa fin. Et donc, la question que je souhaitais vous poser, c'est qu'effectivement, quand on aborde la question du sommeil, on a l'impression de s'attaquer à un puits sans fond. Vous aviez déclaré, il y a quelques années, au magazine Science et Avenir, je cite, « Nous connaissons beaucoup de comment, sans que cela nous autorise à connaître le pourquoi du rêve. » Une bonne moitié de nos connaissances actuelles seront sans doute fausses dans 2 ou 3 ans. L'ennui est que l'on ne sait pas de quelle moitié il s'agit. Alors, quelques années se sont passées. Est-ce que les choses avancent? Est-ce que finalement, c'est toujours un puits sans fond?
C'est un puits sans fond parce que les vieux physiologistes comme moi, qui étudient l'organisme en entier, c'est-à-dire de l'érection au mouvement des yeux, au système cérébral et tout, ont presque disparu, bien que j'ai eu des élèves très brillants, parce qu'ils ont pensé que les comment des comment, le meilleur des comment, c'était, on pouvait l'avoir par la méthode de la biologie moléculaire. Ils ont cherché le gène du sommeil, d'abord, chez les mouches, bien sûr, parce que...
on revient sur les mouches. Les mouches et le chat sont...
Donc, j'ai un ami très brillant, qui est italien, mais qui travaille bien sûr aux États-Unis, comme la plupart des chercheurs brillants que l'on a en Europe et qui vont là-bas parce qu'on les paye 4 ou 5 fois plus, bon, et qui passe son temps, quand il se balade un peu partout, de ramasser des mouches au hasard, comme ça, puis après les ménager pour avoir des souches, c'est facile à voir, des souches, on enregistre le bruit des mouches, hein, et pour avoir des mouches qui ne dorment pas. Et regarder par rapport à des mouches qui ne dorment pas, qui sont immobiles.
Donc là on est dans le cas de la biologie moléculaire.
Oui. Et il a des mouches qui sont toujours presque immobiles, donc ils pensent qu'en regardant les différences entre les deux, ils vont trouver le gène du sommeil, et que ça les amènera à tout. D'abord, le sommeil d'une mouche, c'est assez difficile à savoir. Elles ont une horloge, ça c'est sûr, elles ont une horloge, tout le monde a une horloge, hein. Donc si elles s'arrêtent de voler la nuit et se coller au plafond, c'est leur horloge. Hein. Si on met des mouches en isolement total, c'est pareil, elles continueront à voler 12 heures. Mais d'ici là, penser qu'on va trouver le gène du sommeil chez les mouches, et à partir de là, retrouver tout ce qui se passe au niveau du sommeil de l'homme, et à partir de là, alors que la mouche n'a sûrement pas de sommeil paroxal, retrouver une espèce de petit fil de gènes qui vont dire, vous savez pas que ça, c'est possible. Je ne suis pas du tout spécialiste.
Contre,
j'ai des gens qui ont pris ma succession, qui ont des garçons très brillants, ou des jeunes femmes très brillantes, qui font un peu de la génétique, mais surtout sur des souris, parce que c'est un animal qui est un peu plus...
Mais vous, je me permets de vous interrompre, donc vous n'êtes pas contre cette dominance accordée à la biologie moléculaire, mais vous pensez quand même qu'il faudrait, non pas la mettre de côté, mais continuer à étudier...
It's a dead end.
It's a dead end.
Oui.
En français, donc, c'est sans fin. C'est
je crois pas que c'est par la biologie moléculaire qu'on arrivera à trouver ces fonctions, là où les fonctions, ou alors c'est un système sans fonction. Ça m'étonnerait bougrement.
Donc, le conseil à donner à tous nos futurs chercheurs scientifiques, c'est que...
Qu'ils n'oublient pas que la physiologie été, est et restera la reine des sciences.
Et donc, le sommeil est encore un axe...
C'est un endroit où il y a tellement d'inconnus qui ouvrent tellement de choses pour l'avenir dans tous les domaines que c'est dommage que... Il y a de moins en moins de chercheurs qui continuent la vieille tradition un peu bernardienne que l'on avait en Europe, en Italie, équipe de Maurizio et tout. Et malheureusement, c'est plutôt une autre approche qui se fait, mais il y a toujours des changements qui se font, vous savez.
En tout cas, quoi qu'il en soit, les sciences du sommeil et l'hypnologie ont encore de grandes années devant elles. Donc nous allons devoir nous arrêter là, monsieur Jouvet. Je vous remercie infiniment d'avoir été parmi nous. Et de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Je rappelle simplement que vous avez publié de nombreux ouvrages dédiés au sommeil. Le sommeil, le rêve, pourquoi dormons-nous, le grenier des rêves. Mais vous vous êtes aussi plus récemment essayé à la fiction, avec une même thématique en toile de fond, dans Le château des songes et Le voleur de songes, publié aux éditions Edith Jacob, et dont d'ailleurs, j'espère, vous reviendrez nous parler ici à Canal Academy.
Très volontiers.
Je vous remercie beaucoup. Thank you.